Alors, nous écoutons l'Évangile maintenant. Marc 8, c'est le texte qui précède le récit de la transfiguration dans Marc. Donc c'est au milieu de l'Évangile de Marc. Ceux qui connaissent leur Bible, ils savent que Marc a 16 chapitres. Tout le monde sait ça, n'est-ce pas, évidemment. Et donc, le milieu de 16, c'est 8. Et l'évangile que nous écoutons aujourd'hui, c'est dans 8, au chapitre 8, verset 27. Verset 27 à 38. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. Et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean le baptiseur, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Alors Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita trois jours après. Il leur dit ces choses ouvertement, avec assurance, il leur annonçait cette parole. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde ? S'il perd son âme, que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Nous ne faisons pas que croire en Jésus. Nous suivons Jésus. Nous allons là où il va. Nous sommes, avec ce texte, comme je l'ai dit, au cœur de l'Évangile. Dans la Bible, c'est toujours au milieu, au cœur du texte qu'il y a la chose importante. Nous sommes ici au milieu de l'évangile de Marc. Jésus et ses disciples sont allés dans une région tout au nord, là où ça bombarde en ce moment par le Hezbollah. Cette région s'appelle aujourd'hui Banias, très belle région. C'est les sources du Jourdain, et à l'époque il y avait une ville qui s'appelait Césarée de Philippe. Un très bel endroit. Il leur demande alors de l'identifier. Pierre, au nom des disciples, l'identifie comme le Christ, le sauveur d'Israël et le sauveur du monde. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Jusqu'à présent, les disciples avaient suivi un Jésus qui guérit les malades, nourrit les affamés, libère les personnes de leurs démons, met debout des vies qui ont été cassées par les épreuves de la vie, restaure les personnes qui ont été blessées. Ils ont vu une puissance sortant de Jésus, guérissant, rétablissant dans leur santé, dans leur bon sens des gens. Ils ont vu la démonstration de la venue du règne de Dieu parmi les êtres humains. Et maintenant, à Banias, à Césarée de Philippe, Jésus se laisse identifier explicitement comme le Christ. Une notion un peu compliquée dans ce que en disent les prophètes. Nous avons entendu que le serviteur du Seigneur dans Isaïe 50, il sera frappé, humilié, on lui crachera dessus, tout ça. Donc ça aussi c'est le Christ, mais c'est aussi quelqu'un qui sauve. Un sauveur. Encore aujourd'hui, les Juifs attendent le Messie. Car ils sont dans des détresses inimaginables. Et les prophètes ont annoncé depuis des siècles le Messie. Avec des prophéties très variées les unes des autres. C'est pour ça que c'est difficile à savoir qu'est-ce que Pierre entendait quand il disait « Tu es le Christ ». Et justement, à partir du moment où il est identifié comme le Christ, par ses propres disciples, Jésus leur demande de se taire et il parle explicitement et avec une grande assurance de ses souffrances. Il va être rejeté. Il va subir une mort atroce. Il veut donc que ce titre qu'il vient d'accepter, il ne nie pas, il accepte le titre de Christ, sauveur d'Israël et sauveur du monde. Il veut que ses disciples commencent à associer cela avec ses souffrances, avec sa mort, parce que c'est par sa mort qu'il sera réellement le Christ. Et par sa résurrection, bien sûr, mais il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de salut s'il n'y a pas sa mort. La mort qu'il va subir n'est pas une mort qui lui est arrivée par hasard. Et la résurrection, dont les disciples ont été témoins, ça ne va pas être juste une sorte de vengeance sur la mort qu'on lui a infligée. Non. La résurrection prouve la vérité de ce qui s'est passé dans sa mort. Quand il a été rejeté, torturé, tué, la vérité de ce qui s'est passé dans la mort de Jésus, c'est qu'il nous a sauvés. Et non seulement Jésus prévient de ses disciples, maintenant, explicitement, le texte dit qu'il parle avec une grande assurance de ses souffrances. Et est-ce que vous avez entendu? Il leur demande de le suivre. De le suivre où? Vers la mort. C'est pour ça que j'ai commencé la prédication disant « Nous ne faisons pas que croire ». en Jésus. Nous le suivons. Pierre a cru en Jésus. Il l'a confessé comme le Christ, comme le Sauveur. Puis, il a voulu donner des conseils à Jésus. C'est un peu ce que nous faisons souvent. Mais mettez-vous à la place de Pierre, un juif, qui subit l'humiliation, de l'occupation, des Romains qui peuvent crucifier quand ils veulent, n'importe qui peuvent assassiner des juifs. Eh bien, ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus parle de souffrance, de mort, pour lui-même, alors qu'il est le Sauveur que Pierre vient de le confesser comme le Christ. Et puis Pierre a certainement cette intuition. Que s'il dit, Pierre, suis un Christ qui va être rejeté, lui aussi, Pierre, sera rejeté. Si lui, Pierre, suit un Christ qui, le dernier soir, va laver les pieds aux siens, c'est évident, c'est impossible à accepter parce que ça veut dire que lui, Pierre, devra aussi laver les pieds aux autres, de ses frères, à tous ses frères. Ici, nous sommes ceux qui acceptent de laver les pieds aux autres. L'humiliation de Jésus, c'est forcément celle dans laquelle Pierre doit entrer à son tour et la vivre réellement. Mais cette humiliation, c'est aussi l'amour de Dieu qui nous dépasse tellement. C'est justement l'amour du Père qu'il manifeste aux siens. Pierre, les disciples, je vous le rappelle, ont jusqu'à présent vu que Jésus était puissant. Puissant, en puissance de guérison, puissance de libération. Il ne va quand même pas mourir, lui qui a cette puissance. Eh bien, si, il va même s'abaisser jusqu'à laver les pieds à ceux qui le suivent. Il va être rejeté, il va mourir pour tout être humain, et l'apôtre Paul en tire toutes les conséquences pour nous, les chrétiens. Et je cite Galates 6, 14, « Par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, le monde est crucifié pour moi, comme moi, pour le monde. » Paul se considère comme tous les apôtres, comme crucifié. Il partage le sort de son Messie. Encore une fois, je le dis, nous ne croyons pas seulement en Jésus, nous le suivons. C'est ça le salut, être mis en capacité de renoncer à notre propre vie pour accueillir une autre, la vie de Jésus. Jésus ne garde rien pour lui. L'Évangile nous le souligne tant et plus, il n'a rien gardé pour lui. Même pas l'Esprit Saint, dont il était rempli, dont il était né. Il a tout donné, parce que c'était la volonté de son Père. Tout ce qu'il reçoit de son Père, il doit le donner. Même sa propre vie, il doit la donner, pour nous manifester l'amour dont le Père nous aime. Parce que Jésus est totalement don, D-O-N, il est totalement don. Il dit à la Samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu !» Écoutez bien comment il parle à une femme. Jean 4, verset 10. « Si tu connaissais le don de Dieu !» Nous suivons ce Jésus, nous faisons comme lui. Nous suivons le don que Dieu a fait définitivement à l'humanité. Et nous devenons... de ce fait, nous-mêmes, un don. Nous devenons un don de Dieu pour les autres. Qui est capable, qui est à la hauteur d'une telle vocation, qui peut dire comme l'apôtre Paul, je cite Acte 20, 24, « Je ne fais aucun cas de ma propre vie, pourvu que j'accomplisse bien ma mission et que j'achève la tâche que le Seigneur Jésus m'a confiée, à savoir la tâche confiée à Paul, proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il faut le dire, nous sommes capables de suivre Jésus, même si ça nous paraît hors de compréhension, complètement incompréhensible, mais quand Jésus dit quelque chose, il ne part pas en l'air. Quand il dit « suis-moi », il nous donne en même temps la grâce de le suivre. Il l'a donné à tous les apôtres et à tous les chrétiens dans le baptême. Vous êtes morts et ressuscités, c'est le sens du baptême. Vous avez reçu une grâce, c'est de mourir avec Jésus et de ressusciter avec lui. Comment cette grâce se manifeste? Il y a la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Qui s'est manifesté à partir du baptême de Jésus. Mais Jésus, après le baptême de Jean-Baptiste, il a dit maintenant, j'ai hâte d'avoir un autre baptême. Il parlait de sa mort. Il va être plongé dans la mort et le Saint-Esprit, non seulement va se répandre sur l'humanité, mais ressuscitera le corps de Jésus et nous l'avons sur la table. Vous y croyez? Moi, je crois aux paroles de Jésus. Et quand il dit « c'est mon corps », c'est son corps. Et quand il dit « suivez-moi », je suis capable de le suivre. C'est une grâce, ce n'est pas moi, parce que l'apôtre Pierre nous donne l'exemple d'un homme qui était entier dans ses convictions. C'était un sanguin, il était fougueux. Et il a dit à Jésus « mais moi, je donnerai ma vie pour toi ». Et Jésus a dit, cette nuit, tu m'auras renié trois fois. Donc ce n'est pas notre conviction qui nous aide à suivre Jésus. Ce n'est pas notre force, c'est le Saint-Esprit. C'est notre force que le Père nous donne en Jésus et qui nous est maintenant donnée. Ne doutez pas du Saint-Esprit. Oh, des gens qui doutent. Parce qu'ils associent ça, forcément. Oh, je dois être joyeux, je dois ressentir quelque chose. La foi, c'est croire que la croix est suffisante pour recevoir le Saint-Esprit. Et que c'est un fait réel, et le Saint-Esprit est un don réel qui nous a été fait à la croix. Donc Jésus n'a pas compté sur la force de Pierre, mais il l'a annoncé après sa résurrection. Un jour, tu feras ce que tu m'as promis et que tu n'as pas réussi. Un jour, tu le feras. Tu donneras ta vie pour moi. Mais tu seras emporté par une force qui ne viendra même pas de toi. Et nous savons par les premiers chrétiens que Pierre, effectivement, est mort, crucifié à Rome. Il avait le Saint-Esprit. Ça a tout changé. Pourquoi nous nous réunissons un dimanche alors que le jour du culte, c'est le Shabbat, c'est samedi, pour Jésus, pour tous les apôtres? Parce que c'est le jour de la résurrection, le jour où tout change. Ce n'est plus nos forces qui comptent, c'est la force de Dieu dans la résurrection de Jésus, la force du Saint-Esprit. Ça va? Je peux peut-être m'arrêter là. J'ai encore un truc, alors je vais vous le dire. C'est le dernier paragraphe, si Nathalie, c'est en suivant Jésus, en aimant comme il nous l'a ordonné, que nous découvrirons de plus en plus l'amour dont il nous aime. Quand un enfant naît au monde, c'est d'abord la tête qui sort. Si la tête sort, le reste du corps suit. Les apôtres disent que nous sommes le corps du Christ. Jésus est la tête du corps que nous formons. Il est passé par la mort. Si la tête est passée, nous passerons aussi. Parce que Jésus a manifesté la grâce de Dieu. Il a guéri, enseigné, aimé, écouté, prié, et nous pouvons agir de même. Nous ne faisons pas que croire en Jésus, nous le suivons. Chantons maintenant.